Nous revoici avec M. Patrick Bérard dans le cadre de cette émission Au gré du temps. M. Bérard, avant la pause, nous parlions de Jean Dion, ce journaliste que vous avez connu à l'université, qui était, comme vous, probablement sportif et peut-être musicien?
Non, pas du tout. Il était impliqué en sciences politiques à l'époque.
C'est une autre forme de sport.
Oui, mais c'est un érudit. Jean Dion... En fait, c'était drôle de voir la conjonction de se revoir après plusieurs années. On avait une complémentarité. Jean écrivait les questions, questions anecdotiques et vraiment drôles. Et moi, j'avais la fâcheuse d'habitude de ne pas lire mes textes, mes quiz avant les matchs. Et à un moment donné, une journée, il m'a présenté 5 villes de Pologne à prononcer. Alors, il m'a eu dans le coin. Là. C'était vraiment drôle. Puis on a toujours gardé un bon contact, même si on se voyait pas souvent. Et je l'ai rencontré. Il a écrit un article. Et c'était la première fois qu'il écrivait un article sur quelqu'un directement. Il ne faisait jamais auparavant.
Et là, il a un projet d'écrire votre histoire? Ou vous allez le faire de façon...
L'idée est venue de suite à ce papier-là, qui s'appelle « J'ai pour mourir ». Vraiment intéressant. Et on s'est reparlé il y a 2 ans, 3 ans, mm-hmm. l'année dernière, il y a quelques mois, puis on s'est dit, ça serait peut-être intéressant d'écrire un volume. Puis moi, ça me tente pas de l'écrire. Puis la plume de Jean Dion, si lui, Jean, l'écrivait, ça donnerait quelque chose d'intéressant. Et je suis toujours à plancher là-dessus, puis je...
Donc, un projet.
Le projet.
Un projet réalisé.
Oui, mais je crois que là, c'est le temps.
Alors, si M. Dion, vous êtes à l'antenne, M. Bérard attend après l'encre de votre plume.
Oui, c'est.
Dites-moi, vous avez évoqué beaucoup de musique, que la musique, dans le fond, vous habite. Vous êtes vous-même instrumentiste. Vous jouez du tuba. C'est pas un instrument pour lequel on est généralement, quand on est jeune, attiré. On peut jouer de la guitare, on peut jouer du piano, mais pourquoi le tuba?
Je pourrais dire pourquoi pas le tuba, mais...
Oui, aussi.
En fait, ma quête musicale, là, si je peux, c'est très clair dans ma tête. J'étais en secondaire 1 à l'école Fadette à Saint-Hyacinthe et j'étais dans j'avais pris un cours de musique. Et on jouait du xylophone à l'époque parce que c'était... je voulais me démarquer déjà, fait que je voulais jouer le xylophone basse. Bon, pourquoi le xylophone basse encore là? Puis, il y avait l'harmonie de la polyvalente qui était venue. Puis là, je m'étais dit, mais comment font-ils pour jouer les pièces sans partition, par cœur? C'était pas vrai parce qu'il y avait des partitions devant eux. Et c'est là que ça a cliqué. Et là, je voulais jouer d'un instrument de musique. Et j'avais dit à ma mère, j'aimerais ça aller jouer pour la Société Philharmonique de Saint-Hyacinthe. On était bien chanceux parce qu'il y avait de la famille dans la Société Philharmonique, mais je maîtrisais aucun instrument. Donc, ils m'ont dit, va à la polyvalente, va apprendre un instrument, puis tu reviendras nous revoir. Et on a fait de l'écoute musicale. Et moi, à l'époque, je voulais jouer de la flûte traversière. Donc,
Peu plus léger comme instrument.
C'est différent. Oui. Et donc, on a fait de l'écoute musicale. Et moi, j'étais dans les premiers dans l'alphabet, Bérard. Puis là, je dis, je ne sais pas. Bon, on va attendre. Fait que là, tous les élèves avaient choisi l'instrument, puis il n'y a personne qui avait pris le tuba. Et j'ai pris le tuba. Je dis, je prends le tuba. Et à partir de là, j'ai toujours joué du tuba.
Et là, vous faites partie de l'orchestre avant des musiques de films.
Exact.
Vous allez d'ailleurs, histoire de s'imprégner un peu de ce type de musique avant, vous avez apporté avec vous cette pièce d'un film célèbre qui a fasciné toute une génération.
Ah, plusieurs même.
Même plusieurs, et encore aujourd'hui. En fait, c'est Star Wars.
Exact. Donc, c'est la musique thème de Star Wars. L'orchestre avant de musique de film, c'est un orchestre qui existe, c'est un orchestre amateur qui existe depuis 5 ans, 5 ans et demi à peu près. Moi, ça fait 3 ans, 3 ans et demi. Donc, cette pièce m'a marqué parce que c'était les premières. Je suis rentré à l'EVMF, on jouait Star Wars épisode 4, 5, 6. Et c'est de la grosse musique. Et l'orchestre avant, selon ma connaissance, c'est peut-être un des meilleurs ensembles amateurs au Québec à l'heure actuelle.
Est-ce qu'on vous entend dans cette musique de Star Wars?
Oui, mais...
Il faut avoir l'oreille bien développée.
La réponse est oui. Je, c'est moi qui joue.
Alors, poursuivons cette écoute. Musique assez particulière, effectivement, que celle de Star Wars. Je reviens sur l'orchestre avant de musique de film. C'est un orchestre, pour les gens, bien sûr, qui s'intéressent à ce type de musique, un orchestre qui est probablement fort bien connu, mais pour les néophytes, c'est un orchestre qui mériterait probablement d'être encore plus connu.
Définitivement. Ça, c'est l'adage de l'ensemble des ensembles amateurs. Donc, avec peu de moyens, ce sont les musiciens qui font partie du conseil d'administration. Donc, avec leurs connaissances limitées en termes de gestion, on essaie de développer l'ensemble de toutes les ressources, mais ça prend beaucoup de travail. Ça prend. Ouais.
Mais vous avez dit amateur, pour avoir entendu cet orchestre, c'est d'une qualité de très haut calibre.
Exact, oui. Et c'est ce qui fait la magie, si je puis dire, parce que les gens s'attendent. D'ailleurs, au concert bénéfice de l'orchestre qu'on avait donné pour la Fondation Aimant Québec, la directrice générale, Francine Descairy, qui est présidente de la Société de musique contemporaine du Québec. Donc, ce sont des professionnels qui jouent à ces prestations-là. Elle croyait qu'on était des professionnels. Donc, c'est tout dire de la qualité de ce qu'on est capable d'interpréter.
Si je mentionne votre participation au sein de cet orchestre, c'est que depuis que vous avez surmonté la maladie, vous êtes donc impliqué, vous en avez parlé au sein de certains organismes, des organismes philanthropiques. Vous êtes aussi un musicien de grand calibre, faut bien le dire. Tout ça pour dire que la vie vous habite comme elle n'a jamais probablement pu vous habiter avant la maladie? Est-ce présomptueux de dire pareil?
Peut-être un peu, parce que si je fais la rétrospective de ce que je suis, j'étais comme ça auparavant. La seule chose, c'est que j'avais cette méconnaissance-là, premièrement, de la mort. Donc, avant, pas que je me sentais invincible, là, c'était pas ça, là, mais...
Mais c'est peut-être cela quand on est jeune, ce n'est pas le genre d'idée qui nous habite.
Oui, mais laissant ça de côté, c'était... J'étais un bon vivant auparavant, d'accord. J'étais...
Et vous l'êtes toujours.
Oui. La seule chose, c'est que maintenant, à place d'essayer de faire 26 000 choses, je vais me limiter à mes choix numéro un.
Vous déterminez vos priorités.
Priorités, puis je vais établir mes priorités numéro un, puis je vais les réaliser. Donc, dans le cadre de ma vie familiale, ben, j'ai un garçon maintenant.
Oui, ça, c'est aussi un autre miracle.
On pourrait y revenir tout à l'heure. Et l'aspect de la musique, ça, pour moi, c'est important. D'ailleurs, sur mon lit d'hôpital, il y avait mon confrère tubiste qui est venu me voir, puis il me demande, il dit, est-ce que tu vas revenir à la Société Philharmonique? Ben, je dis, là, Régent, je laisse pas sortir de l'hôpital, au moins. Et lorsque je suis sorti de l'hôpital, le 29 janvier, après la crise du verglas Saint-Hyacinthe, parce que mes parents habitent Saint-Hyacinthe, deux semaines après, j'étais à la Société Philharmonique de Saint-Hyacinthe avec mon tuba. J'avais de la misère à jouer, mais j'étais là.
Écoutons une fois de plus l'orchestre de musique, j'allais dire d'instruments à vent. Le nom exact, encore une fois.
L'orchestre à vent de musique de film.
Voilà, c'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais c'est un orchestre qui a vraiment beaucoup d'envergure, qui nous interprète cette fois.
Une marche militaire, Midway. Ça, pourquoi je l'ai choisi encore? Parce que les tubas sont encore présents. Et c'est une pièce que j'affectionne personnellement. Thank you.
Effectivement, une musique qui est fascinante. Les instruments avant n'ont pas nécessairement la même façon de nous interpeller au plan de l'émotion. Est-ce exact. Que vous ressentez cela également?
Oui, parce que si on compare un orchestre symphonique avec des violons puis un orchestre avant, mais c'est fascinant aussi de voir qu'on est capable de passer des sensations, des moments présents absolument exquis.
Moment présent exquis, on revient sur ce miracle, votre garçon.
Le deuxième miracle.
Oui, deuxième miracle parce que vous êtes devenu père après avoir surmonté ce cancer. Et généralement, c'est quand même relativement rare de pouvoir donner la vie lorsqu'on a traversé un cancer.
Bien, on va le dire tout de suite, c'est à cause des avancées de la médecine là encore. Si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause des avancées de la médecine, principalement. Bien sûr, corporellement, j'avais un corps de sportif qui m'a aidé à passer au travers. Et les avancées de la médecine aussi m'ont permis d'avoir un petit garçon du nom de Victor, en l'honneur de ses deux arrière-grands-parents. Ma conjointe étant roumaine, même son grand-père s'appelait Victor et le père de ma mère s'appelait Victor, donc ça a été facile. Et on l'a eu par fécondation in vitro. Donc, et même fécondation in vitro avec prélèvement, avec micro-injection pour optimiser le potentiel. Parce qu'il faut savoir, c'est que la chimio altère énormément la quantité de sperme pour un homme. Mm-hmm. Et même j'avais passé un spermogramme et c'était négatif, donc pas de possibilité d'avoir d'enfant. Et quand je suis allé chez Procréa, on a fait encore la batterie de test 2 ans plus tard. Et j'étais encore valide. C'est comme la belle surprise.
Mais à travers tout ça, ce désir de transmettre la vie qui vous a été donnée de manière généreuse, que ce soit par les avancées de la médecine, mais aussi par cette volonté que vous vouliez, que vous aviez de vous accrocher à la vie.
Oh, définitivement. Puis d'avoir un enfant, c'était aussi un fabuleux projet que j'avais pas à l'époque parce que j'étais pas avec ma copine. Mais je peux pas demander de mieux que d'avoir cette petite bête-là parce que c'est vraiment l'accomplissement, je dirais, ultime. Aujourd'hui, je pourrais dire, si je devais quitter ce monde, je pourrais dire mission accomplie. Bien sûr, j'ai encore plusieurs projets à réaliser, mais d'avoir un enfant, pour ceux qui en ont, bien sûr, ils vont comprendre.
Et pour ceux qui nous écoutent, il faut dire que vous avez quand même un bel éventail de talents. Vous avez déjà été bouffon. Le bouffon s'appelait Patou, n'est-ce pas?
J'aime pas le mot bouffon, clown. Je me plais à dire qu'il y a un mot, malheureusement, qui n'est pas traduisible en français, mais c'est un entertainer.
Ou un amuseur public.
Ouais, mais amuseur public, ça fait encore plus artiste. Un entertainer, je trouve que c'est le vrai mot qui me décrit.
Alors, vous regardez nous faire rire, vous entendre nous émeut.
Oui.
Monsieur Bérard, vous connaissez sans aucun doute Jean-Guy Moreau. On parle de sourire. C'est un monsieur qui a un talent formidable au plan des imitations. Vous connaissez sans aucun doute son imitation la plus célèbre.
Olivier Jean Drapeau.
Bien sûr. Mais Jean-Guy Moreau a un jour décidé de faire de la chanson. C'est peut-être pas très connu. Et cette chanson, nous vous la dédions, et à vous tous à l'écoute.
Merci.
Parce qu'elle vous ressemble. En fait, cette chanson a été composée pour rendre hommage à Clémence Desrochers. Mais le titre est un peu ce que vous avez fait avec nous aujourd'hui. Vous dévoiler à cœur ouvert. Jean-Guy Moreau à cœur ouvert.
Garder les yeux et la voix de l'enfance, sa fraîcheur et son innocence. Elle traverse la vie, ses joies, ses turbulences, à cœur ouvert la Clémence, à cœur ouvert, à cœur ouvert la Clémence, à cœur ouvert. La tête dans les nuages, elle n'a vu passer le temps. On ne lui donnerait jamais son âge. Elle parle d'amour sans maquillage, sans du tout. Son âme remplie de tendresse. Elle a gardé les yeux et la voix de l'enfance, sa fraîcheur et son innocence. Elle traverse la vie, ses joies, ses turbulences, à cœur ouvert la clémence, à cœur ouvert. À cœur ouvert la clémence, à cœur ouvert. Avec des pleurs dans son rire et des sourires pleins sa peine, elle donne tout ce qu'elle peut offrir. Une vie, un jardin d'humour, de tendres chansons. Non, la clémence n'a rien à vendre. Elle a gardé les yeux et la voix de l'enfance, sa fraîcheur et son innocence. Elle traverse la vie, ses joies, ses turbulences.
Dites-moi, nous sommes déjà presque au terme de notre émission, il nous reste quand même quelques minutes. De tout cet épisode que vous avez traversé, quelle est la leçon, si j'ose dire, que vous en retirez au plan du sens à donner à votre existence ou à l'existence tout court?
Je dirais principalement l'engagement. L'engagement de s'approprier ses projets, de réaliser ses projets. Pourquoi l'engagement? J'ai eu le privilège de rencontrer Bernard Voyer, qui a monté l'Everest. Et je suis allé le rencontrer, il faisait une présentation, puis je me présente à lui, je dis « Bonjour, mon nom est Patrick Bérand. Vous savez, on est deux à avoir monté l'Everest. » Là, il m'a regardé avec un petit sourire en coin en disant « C'est qui ce gars-là? » Je lui raconte mon histoire, puis il me dit, là, il sourit pas, il comprend bien. Puis là, je lui ai demandé, je dis, qu'est-ce que vous avez à m'apprendre de votre expérience? Là, il m'a dit, j'ai rien à t'apprendre, t'as vécu exactement la même chose que j'ai vécu, mais avec une expérience différente. Wow! Et là, je regarde la carte du Mont Everest, puis là, je lui ai demandé, je dis, qu'est-ce qui a été le plus difficile là-dedans? Puis là, il m'a dit, il a tassé la carte, m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, c'est quand tu es en sécurité, à la maison, à la chaleur, avec tes amis, ta famille, et que tu décides de monter l'Everest. Ben, il dit ça, on appelle ça l'engagement. Je dis, OK. Je dis, l'engagement de réaliser mes rêves, pour moi, c'est important. J'ai joué mon solo tuba, j'ai pris certainement mon verre d'eau. Je suis allé à la pêche avec mon père, j'ai pris une bière avec mes chums. Puis... Sauf que j'ai encore d'autres projets. Puis c'est de les réaliser et non pas d'attendre...
Un peu ce que le docteur Cyrulnik, que vous connaissez peut-être, a appelé la résilience, renaître de sa souffrance. Ce que vous racontez, nous avons déjà reçu ici Sylvain Bédard, un greffé du cœur, qui a escaladé le mont, j'ai toujours une certaine difficulté à le prononcer, Sojama, en Bolivie, okay. Le Mont Blanc, après sa greffe de cœur. Et ce que vous nous racontez, il nous racontait cela dans ses mots, mais c'était essentiellement la même expérience.
Donc, on a vécu la même expérience. Ben, on a vu une expérience différente, mais on arrive au même résultat. Donc, c'est ça qui est fascinant.
Donc, on peut renaître de sa souffrance.
On peut pas la nier, certainement. Puis, on peut en mourir de notre souffrance. Et c'est, moi, j'ai décidé plutôt d'en faire un effet de levier. L'autre élément qui est pour moi important, c'est que seul dans la vie, on ne peut pas réussir. Donc, on a besoin des gens autour de soi pour réussir à réaliser les prochains projets, parce que les gens m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Mais si je veux réussir à être ce que je veux être demain, ben, j'aurai besoin des gens autour de soi.
Quelle belle destination bonheur vous nous avez fait partager aujourd'hui. On vous en remercie infiniment. C'est un signe d'espoir. C'est aussi un témoignage qui probablement va nourrir l'esprit de plusieurs qui nous écoutaient aujourd'hui.
Je l'espère.
Monsieur Bérard, merci et bon succès dans tous vos projets, qu'ils soient au plan de l'amuseur public ou aussi de l'entrepreneur, parce que vous avez des projets de ce côté. Et nous vous inviterons probablement à une autre émission, éventuellement, pour nous parler de vos projets. Merci, merci encore une fois. C'était l'émission Au gré du temps de la série Destination Bonheur, émission réalisée sous la supervision technique d'Alain Primeau. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Ici Armand Dubois qui vous dit au revoir.